Le moyen le plus simple, puisque dans l'ordre dans lequel Claudine vous a fait les propositions, c'était premièrement segmentation. Donc quel est le groupe qui a travaillé sur les questions de segmentation?
Donc déjà dans un premier temps, on a pris pas mal de temps pour essayer de cerner la question. Ah oui, chaque fois, excusez-moi. Donc ensuite, on a regardé les différents textes donc, de façon assez rapide pour essayer de cerner les points qui permettaient de répondre à cette question de la segmentation. On s'est beaucoup interrogé sur les consignes données et la place de l'image, puisque il s'agissait dans un premier cas de raconter un récit à partir d'images qui étaient données. Et on en a conclu que la place des images et le travail qui avait pu être fait sur les images avait vraisemblablement une grande incidence sur la non-segmentation des textes pour les élèves de CE2. On s'est interrogé sur la temporalité. Il faut que je l'éloigne encore. Voilà. Le passage donc d'un texte au présent à l'utilisation d'autres temps verbaux, la présence des connecteurs qui apparaissent plus nettement dans les textes scientifiques dès le départ que dans les textes narratifs. Et enfin, le travail sur les connecteurs, mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup plus énuméré un certain nombre de données qu'on a proposé de réponses.
Les autres collègues du groupe, vous souhaitez compléter ?
Sur pratiquement l'ensemble du corpus, mais surtout sur le AB. On a peut-être plus pris le texte AB comme point de départ, puis ensuite on est allé plus sur le texte de sixième. Voilà.
Moi, je n'ai pas les qualifications nécessaires pour, mais juste pour vous répondre pourquoi on a laissé un peu de côté. Notre réflexion a été, on a eu du mal en fait au départ à trouver une problématique pour réfléchir. Voilà. Et on s'est inscrit un petit peu dans une perspective de diachronique en disant comment on fait pour passer d'un texte non segmenté comme le premier texte de l'élève AB, texte narratif, à un texte segmenté de façon quasi parfaite, on va dire, en quatrième, voire très stéréotypée, éventuellement, mais parfaitement normée. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les problèmes qu'on va poser aux enseignants en formation ou aux futurs enseignants pour qu'ils réfléchissent à l'évolution de la segmentation? Donc c'est pour ça que le texte 2, qui était aussi un texte de CE2, on l'a pas tellement examiné. Après, notre réflexion, un peu, je dirais malgré nous, elle a été orientée par cette perspective. Et on a certainement laissé beaucoup d'autres aspects de côté. Voilà.
De toute façon, le temps était très court et vous aviez beaucoup de documents. Donc, évidemment, ce n'était pas une analyse exhaustive que vous pouviez faire. Les autres membres du groupe, vous voulez ajouter des choses? Ça serait intéressant peut-être que vous resituiez aussi par rapport aux points 1 et 3, l'échange que vous avez pu avoir aussi sur l'utilisation de textes d'élèves en situation de formation, si vous avez eu le temps d'en discuter.
Alors, dans l'optique d'une formation, on s'était dit que ce serait peut-être intéressant de demander aux stagiaires d'imaginer le travail qui avait pu être fait ou pas fait, justement, ou éludé, pour obtenir ces textes. Donc on est revenu sur aussi le fait que les images induisaient de la description et qu'il y avait des sortes d'ellipses entre les différentes images séquentielles, et que les élèves, en tout cas l'élève de CE2, avait tendance à les combler par la conjonction de coordination et comme à l'oral. Et puis, le rôle de l'oral aussi, dans la perspective d'une progression pour la segmentation. Donc, à la fois la nécessité de repasser par l'oral, mais de dépasser cette première production orale. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
Ça va faire dérouler tous les groupes. Je reprends après. Je reprends.
Ah oui, puis en effet, on a fait remarquer que tout est lié, que les problèmes de segmentation sont aussi liés à la manière dont les élèves perçoivent la temporalité. Par exemple, dans certains textes, on s'aperçoit qu'il y a de l'antériorité, alors que les images séquentielles n'induisent pas cela au départ. Elles induisent un présent descriptif. Et donc, pour arriver à produire cela, là encore, le détour par l'oral nous semblait important.
Bien. Le groupe veut compléter ? Réaction des autres groupes? Bon, chaque fois, je vais essayer d'être brève et puis après, on reprendra peut-être une discussion globale. Enfin, en tout cas, plutôt sur des éléments de situation que vous n'aviez pas forcément en main. Travail préparatoire sur l'image, aucun. Alors, si on regarde comment la tâche d'écriture, puisque alors là, c'est toutes les limites d'une expérimentation d'un recueil de données hors situation de classe réelle. Donc ça. Alors, en revanche, si on analyse la tâche de plus près, par rapport à ces questions de segmentation, alors notamment, moi, je m'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle les adverbiaux quadratifs, c'est-à-dire ces compléments circonstanciels au début d'une phrase qui peuvent courir sur plusieurs phrases. Une fois arrivé au restaurant, il se passe ça, bon, c'est sur cette phrase, mais la phrase suivante, elle va enchaîner, on ne va pas redonner un repère temporel ou spatial, mais ça va courir. Donc il y a un travail qui a été fait dans mon laboratoire de recherche par Marie-Paul Périgoudelet et Anne Le Draoulec sur des textes littéraires. Et donc moi, je regarde ce que ça donne sur des textes d'élèves. Alors là, par rapport à cette tâche, moi que j'ai pas choisie, ce que je vois, c'est que la première vignette qui montre le petit garçon en train de se préparer pour aller au restaurant dessine un espace, mais qu'ensuite les vignettes 2, 3, 4 et 5 se passent dans un autre espace, c'est la scène au restaurant, et ensuite il y a la scène 6 avec une ellipse entre la vignette 5 et la vignette 6 qui correspond donc à ce qui s'est passé après le fait que le maître d'hôtel a trouvé la grenouille. Et donc là, il y a des ellipses dans la narration BD. Comment les élèves comblent ces ellipses? Est-ce qu'ils écrivent sur ce qui se passe entre les vignettes et comment ils marquent les délimitations d'espace? Bon, ça c'est une sous-question de la question que vous posiez. Alors on voit qu'une fois arrivé au restaurant, par exemple, on le trouve dès certaines productions de CE2, mais on le trouve quasiment dans toutes les productions, parce que vous n'avez aussi qu'un morceau du corpus, bien sûr, qui est lui-même qu'un morceau d'un autre corpus. Donc, le corpus est un ensemble significatif, un échantillon significatif. J'ai dit carottage, c'est exactement ça. Donc, voilà. Alors, effectivement, effet de la consigne image. Alors, effectivement, la consigne image, alors là, il y a des psychologues dans le groupe, ça, c'est les difficultés du travail interdisciplinaire. Donc, nos amis psychologues ne veulent surtout pas qu'il y ait du verbal pour amorcer la tâche d'écriture. Là où, didactiquement, on pense que c'est le verbal qui est le plus intéressant pour amorcer les tâches d'écriture. Donc, du coup, ça explique que là, il n'y a que des images en même nombre, etc. Enfin, tous les paramètres de la psycho, XP, voilà. Mais ça, c'est le travail interdisciplinaire. Il faut arriver à s'accorder. Après, on ne fait pas les mêmes études, mais il faut au moins s'accorder. Bon, eux, ils trouvent d'ailleurs que ce n'est pas du temps réel et que du coup, c'est quand même pas très, très scientifique. Bon, même s'ils participent au projet. Alors, deuxièmement, ce que je voulais souligner, prenons les deux premiers textes, effectivement, ça saute aux yeux, l'absence de segmentation, alors qu'après, on va avoir peu à peu des segmentations. Mais bon, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder où est-ce qu'il y a des points. Alors, on s'aperçoit que des points, il y en a quand même davantage dans le texte du Tétard, hein, que dans l'autre texte. Et dans le texte du Tétard, il y a quand même des points qui sont troublants, hein, par rapport à la question qui nous intéresse du rapport entre délimitation syntaxique et ponctuation. C'est par exemple, il grandissait de plus en plus, point, et sa queue se rétrécissait de petit à petit, mais après il avait point. On a l'impression qu'il y a deux types de points. Il y a des points qui sont des vraies délimitations syntaxiques, et d'autres points, comme celui de il avait queue de pattes, qui sont plutôt la trace du processus d'écriture. On est en train d'écrire. On réfléchit, on met un point, et puis bon, voilà. De la même manière qu'on observe en sixième, mais encore parfois en seconde, qu'il y a certains élèves qui vont à la ligne à chaque phrase, et que donc la notion de paragraphe comme... Alors bon, là, c'est aussi un principe pour regarder les textes. Est-ce que la ponctuation est utilisée comme instruction pour le lecteur, hein, de délimitation de bloc, de sens, si c'est un paragraphe, ou d'unité syntaxique, si c'est la phrase, ou est-ce que c'est la trace du processus d'écriture, auquel cas les points ne sont pas aux mêmes endroits. Et là, il y a toute une série de travaux qui montrent que ben, quand on est un jeune enfant, on a des points ou des marques de ponctuation qui correspondent plutôt aux grandes délimitations. Hein, le point va correspondre à ce qui est une unité paragraphe pour un adulte expert, et que les points, on va les mettre à des moments clés dans l'avancée narrative, par exemple. Je renvoie au travail de Jaffré Fayol sur cette question il y a un certain nombre d'années. Bon, alors ensuite, si on regarde encore de plus près, s'il y a des choses qui bougent entre la version 1 et la version 2, en termes de ponctuation, un peu, mais pas beaucoup, et effectivement, on voit aussi qu'au niveau CE2, il y a une grande disparité déjà entre les élèves, puisque là, vous n'aviez pas les extrêmes et qu'il y a quand même des différences fortes. Alors, je voulais remarquer aussi, vous faire remarquer aussi que, comme vous l'avez indiqué, il y a des connecteurs et simplement signaler que si on compte, là, c'est l'absence de marque qui est un signe de progrès et de compétences. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un peu l'idée que plus il y aura de virgules, mieux ça sera. Et bien là, moins il y a de et, plus ça signifie que on a une segmentation propre à l'écrit qui est effectivement la trace du et ou du et puis, hein, comme marque de cohésion et de connexion chez les petits, encore au CE2 et encore parfois en sixième, c'est quelque chose d'important. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, parce que je pense que le groupe oral écrit va avoir aussi des choses à dire sur le corpus. Donc il y avait un groupe oral écrit. Un ou deux.
Oral écrit, alors c'est.
Il n'y en a plus ? Personne n'a travaillé là-dessus ? Si ? Eh bien alors ? Ah, c'est le groupe qui était à côté. J'avais oublié de dire qu'il fallait un rapporteur par groupe, mais quand même.
Normalement, ça va de soi.
Une rapporteuse, il y en a une qui commence et puis après vous enchaînerez, non ? Ou à une ou un.
Non, je ne suis pas trop.
Bon, je le fais. Donc, plein de niveaux. Donc, la question de la syntaxe de l'oral et la syntaxe de l'écrit. Donc, vous venez de le dire, l'abondance des et des mais. Des épi et mais et après, donc qui remplacent la ponctuation et qui sont une ponctuation typique de l'oral. Des traces syntaxiques, normes et pas normes, absence de la négation par exemple, il était pas, il devait pas. La question du lexique, choper, je sais plus, on a vu tomber dans les pommes carrément, péter de rire. Donc, il y a plein de traces lexicales. Sur la question de la ponctuation absente ou présente, je ne reprends pas ce que vous dites. Moi, je dis des fois aussi qu'il y a une ponctuation cognitive et une ponctuation normée. La question de l'emploi des temps. Donc, mélange imparfait, passé simple, présent. la question de l'énonciation, des bascules de récit en île. Il se coiffe de la glace. C'est bon, je suis près de nous. Prenons la voiture. C'est-à-dire non. Mais on l'avait observé déjà dans des feuilles, des copies hier. Et puis donc toute la question orthographique du passage de l'oral à l'écrit. Et donc problème de segmentation, problème de l'homonymie, enfin de l'homophonie, notamment sur les verbes. Une paire de PERD. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ah oui, l'absence de paragraphe, la mise en page, mise en espace du texte. Ah oui, alors les connecteurs, mais les personnes du premier groupe l'ont dit, c'est-à-dire derrière ou il reste là, c'est-à-dire que l'enfant se réfère à l'image plutôt que dans un récit autonome. Et là, voilà.
Est-ce qu'à votre avis, il y a une différence entre les textes documentaires et les textes narratifs en ce qui concerne l'axe que vous avez étudié?
Ça se voit plus sur les textes narratifs.
Il y a plus de connexion.
Oui, il y en a aussi dans les textes scientifiques. Mais après, là, le texte... Premier regard sur le corpus. Il grandissait de plus en plus et sa queue se rétrécissait petit à petit. Mais après, il avait que deux pattes. Mais après, il avait grandi et il avait ses quatre pattes. Mais il avait toujours sa queue. Mais après, il avait. Donc ça, c'est typique oral. Oui.
Attends, vas-y. Non, je me demandais si c'était typique oral ou si c'était typique texte construit à partir d'images séquencées. Parce que ce mais après... On le rencontre dans des récits de tout petit, parce que c'est effectivement plaqué sur la narration orale. Mais le fait ici d'avoir des images, ça induit aussi ce mais après, parce qu'on décrit des images. On n'est pas on peut ne jamais décoller dans une structure écrite, une composition écrite, puisqu'on colle aux images.
Oui, ça est sûrement aggravé.
Oui, voilà.
Donc là, vous avez parlé de l'analyse des textes. Est-ce que vous avez eu le temps en amont et en aval de discuter de l'utilisation de textes d'élèves dans des...
Oui, dans le groupe, la plupart des personnes, conseillers pédagogiques, un peu moins peut-être, mais on utilise largement les copies des élèves. Donc le groupe avait décidé de séparer textes narratifs et textes d'origine scientifique. On fait deux groupes. On donne les textes de CE2 et les textes de 4e. Version dure, version un peu plus molle, on donne CE2, CM2 et 4e. Et on demande aux stagiaires, à votre avis, que s'est-il passé entre ces deux niveaux? Et quel est le problème majeur qui vous apparaît? Le problème majeur étant, les enfants commencent à écrire en écrivant comme à l'oral. Et donc, quels apprentissages, à votre avis, ont été faits entre tous ces niveaux? Et puis, pour terminer, quelles pistes concrètes proposez-vous à l'enseignant, si on est en formation de formateur ou si on est avec des PE2, quelles pistes proposez-vous pour que l'élève de CE2 améliore son texte?
Bien. Des remarques du groupe ou des autres groupes? Alors, sur les points que vous avez relevés, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, sur la connexion, sur la négation. Le carrément, je ne le mettrai pas tout à fait dans le même sac que pété de rire, parce que carrément, c'est aussi un commentaire de l'énonciateur, donc il va plutôt, me semble-t-il, avec le bloc de là et enfin, tout ce qui renvoie à la situation. Mais je voulais pointer aussi quelques petites choses qui sont, bon voilà, assez typiques, me semble-t-il, aussi des rapports oral-écrit par rapport à la syntaxe. À l'oral, on a souvent des présentatifs. Il y a un tel qui, hein. Et l'élève D, vous remarquez qu'il a un petit garçon qui s'appelle Louis et qui se prépare pour aller au restaurant. Un point qui n'est pas du tout corrigé dans la deuxième version, alors qu'il y a d'autres choses qui sont corrigées. Donc là-dessus, il n'y a pas d'intuition. On peut se dire qu'à certains moments, ils peuvent avoir l'intuition linguistique que ce qu'ils ont écrit en première version, ce n'est pas la forme normée. Mais là, il n'y a pas de changement là-dessus. On a même vu une copie de sixième où l'élève avait fait une phrase syntaxiquement correcte, comportant une relative en version 1, qu'elle modifie pour aller vers ce genre de structure en version 2. Donc là-dessus, c'est quelque chose d'assez flottant. L'autre chose aussi que je voulais signaler, parce que c'est assez paradoxal, l'élève E, dans sa première mouture, mais la deuxième n'est pas très différente, à la fin du texte, il récapitule, ce qui est très, très efficace, hein, pas forcément dans la narration littéraire. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, toute la famille était en colère contre Rémi et sa grenouille qui se sentaient affreusement gênée par tous les accidents qu'elle avait provoqués, dont deux points, l'accident des musiciens, l'évanouissement de la dame et toute la famille qui fut virée. Alors je trouve ça assez intéressant à regarder parce que à la fois cette idée de récapituler, bon, est-ce qu'elle est orale ou écrite, mais en tout cas, enfin, elle n'est pas forcément littéraire. Hein. Mais ensuite, l'accident des musiciens, l'évanouissement de la dame, c'est-à-dire des nominalisations. Bon, on dit que souvent à l'écrit, ce sont les noms qui sont plus nombreux que les verbes et qu'à l'oral, c'est l'inverse. Alors ça, c'est Blanche Benveniste comparant des corpus oraux et des corpus écrits qui a montré que la proportion de verbes et à l'oral était inverse de celle à l'écrit. Qui est... Alors on le voit très bien dans les textes scientifiques où on a l'augmentation de telle bestiole est liée à la diminution de telle autre et à l'apparition de telle chose, avec une information extrêmement dense où il faut que l'élève rétablisse à la fois que la première bestiole, elle a disparu, que la deuxième, elle a fait autre chose et qu'il y a un lien de causalité entre tout ça. Donc dans une phrase, il peut y avoir parfois quatre informations, ce qui pose des problèmes de lecture aux élèves, mais à l'inverse, le fait de passer à la nominalisation est quelque chose de relativement écrit. Et là, on voit que l'élève, en plus, ses moyens linguistiques sont limités puisqu'il arrive à nominaliser un accident, un évanouissement, mais toute la famille, ça serait l'éviction ou le je sais pas quoi, donc là, hein, le virage pour faire comme le volage ce matin. Et en même temps, le qui fut viré qui montre aussi la variation sur le registre de langue. Alors, il y a aussi, il n'y en a pas dans ces textes-là, mais souvent à l'écrit, ces constructions avec détachement, du genre le petit garçon, il joue, hein, qui sont aussi très fréquentes. Et donc, ces marques d'oralité, hein, elles sont souvent, vous l'avez pointé, lexicales. Enfin, les enseignants, souvent, c'est des variations lexicales qu'ils pointent. Mais il y a aussi des tournures syntaxiques. Oui ? De phrases nominales.
Attends une seconde.
Attends, je passe.
Oui, il peut circuler là-bas aussi.
Raté. Mais là encore, c'est un peu un effet de listage cumulatif à cause des images. Enfin, c'est un peu induit aussi par l'image. C'est-à-dire qu'il décrit rapidement en listant ce qu'il voit. Et du coup, il n'éprouve pas le besoin de faire des phrases.
Tout à fait. Hein? Donc là, on voit bien aussi que l'inducteur image n'est pas du tout le plus porteur pour avoir des éléments riches linguistiquement et même contre-productifs. Et effectivement, ce texte D, c'est un inventaire, hein, à partir d'images. Sur la question des pistes concrètes par rapport à oral-écrit, moi, je me demande si dans le scénario, j'ajouterais pas une phase intermédiaire qui serait quand même, alors avant ou après, peut-être avant même l'approche des textes, qui serait de faire transcrire un morceau d'oral. Parce que je pense aussi que la validation... Ah, je vois que vous avez débattu sur le fait de le faire. Mais parce que je pense aussi que valider les spécificités de la syntaxe de l'écrit, ça passe par une meilleure connaissance de la syntaxe de l'oral. Alors moi, pour ma part, en formation initiale et continue, J'avais utilisé ce DVD que le ministère avait promu sur le langage en maternelle, qui était accompagné d'un livret d'accompagnement avec des transcriptions qui, pour un spécialiste de l'oral, ne sont pas des transcriptions orales. Ça se voit tout de suite, mais bon, elles sont un peu réécrites. Donc, je donnais le document à visionner. Et ensuite, je donnais la transcription et je demandais de corriger la transcription. Et donc, on voyait que, à l'oral, nécessairement, il y a des bribes, il y a des éléments qui sont répétés, il y a des mais, il y a des pauses qui correspondent pas aux unités syntaxiques, donc il y a un fonctionnement de l'oral. Alors, je voulais dire que sur ces questions d'oral écrit qui sont assez peu travaillées, en général, en tout cas, les manuels proposent pas grand-chose, une collègue en sixième avait fait tout un travail avec ses élèves, a fait tout un travail avec ses élèves, partant aussi d'émissions télé où quand même on a un oral préparé, hein, donc d'un niveau relativement soutenu, mais en faisant observer aussi que dans les moments de débat, en faisant procéder, alors elle faisait procéder à d'abord la transcription, puis la réécriture, comme on l'aurait dans une interview de magazine, pour aussi prendre conscience du fait que une interview de magazine, c'est de l'écrit. Un dialogue de roman, c'est de l'écrit, sauf si vraiment je veux simuler l'oral. Mais encore une fois, rare qu'au théâtre ou dans un roman, on ait une réelle transcription d'oral, ne serait-ce aussi que parce que le dialogue de roman, il a comme fonction de faire avancer l'histoire et que donc il ne va pas être la traduction immédiate d'une conversation quotidienne. Alors, plus violent dans la formation, un de mes collègues a proposé à des collègues dans un stage formation continue d'enregistrer un débat contradictoire et leur a rapporté le lendemain matin la transcription du débat. Alors c'était assez violent, mais elle a demandé d'abord leur accord parce que, alors que, bon, elles avaient parlé bien, normalement, quoi. Forcément, elles étaient horrifiées de voir à quel point elles avaient utilisé des « e », des « bon », des « après ». Mais je crois aussi que, justement, prendre conscience du fonctionnement de la syntaxe orale, c'est prendre conscience du fait que on ne parle pas comme on écrit. Bon, ceci dit, c'est faux, ça, parce qu'en fait, il y a aussi diverses manières de parler, et notamment un oral préparé, et c'est de simuler l'écrit. Et je crois qu'en formation initiale, on a beaucoup aussi à insister sur le fait que quand on est en maternelle, il faut faire en sorte d'avoir un oral qui soit surveillé et qu'il y ait le moins possible, qu'il n'y ait pas trop de bribes et qu'on surveille ce qu'on dit. Hein, et ça, moi, je suis aussi un peu frappée brutalement quand je vais voir des PE2 en classe maternelle en particulier qui n'ont pas forcément conscience de cette distance. Alors après, on peut aussi, en formation, attirer leur attention sur la nécessité d'une formulation précise. Bon, moi, en ce moment, je fais la guerre à mener. Je ne sais pas si c'est positif, mais ils amènent toujours un livre. Mais je veux dire aussi, ces petites choses, c'est pas ça qui est important. C'est cette attention du langage, au langage qu'on utilise quand on a affaire à des élèves en classe, sans forcément faire ce que Frédéric François appelle la surnorme, c'est-à-dire avoir un oral tellement léché que ça n'est plus un oral, mais en même temps avoir conscience aussi qu'il y a des variations fortes de l'oral suivant qu'on est dans un espace formel ou dans une conversation informelle. Alors moi, je crois quand même qu'une des grandes difficultés sur oral écrit tient aussi au fait que comme on ne valide pas l'oral comme ayant sa propre syntaxe qui est liée aussi à la condition même de production de l'oral, où on est d'abord en direct, où on a des variations de débit et d'intonation qui permettent de dire des choses, alors qu'à l'écrit on les marque autrement, et également où on est en direct, l'énoncé favori de Culioli, grand spécialiste de l'oral, c'est « Moi, mon frère, sa mobilette, il y a les freins qui déconnent. » Alors, vous enlevez le déconne, mais « Moi, mon frère, sa mobilette, il y a qui ?» C'est une manière de poser l'objet du discours par ajustement successif qui est très typique de l'oral. C'est pas un oral très préparé. Mais en revanche, à certains moments, effectivement, cet ajustement progressif, justement, à l'écrit, comme on a le temps, on peut reposer des choses. Et petite anecdote aussi, la semaine dernière, dans une classe, un élève avait oublié quelque chose, il dit, ajoute-le. Ah ben, il dit, non, c'est déjà écrit. Donc, c'est déjà écrit, on veut un écrit propre, Donc, on n'ajoute rien, alors que précisément, à l'écrit, on peut ajouter des choses, alors qu'à l'oral, on ne peut pas le faire. Bien, on va, vu l'heure, passer au groupe suivant, sauf si vous voulez réagir et compléter. Alors, ensuite, il y avait compétences et genre.
Alors, directement sur l'étude des corpus, donc on a été confronté à une première difficulté qu'on reprendra après sur les idées de formation, c'est que le corpus nous a paru beaucoup trop important. Donc d'office, on est parti sur seulement les productions d'élèves C, de CE2, et on a essayé en analysant assez précis... Oui. Alors pourquoi on n'a pas pris le AB ? Parce que tout simplement ce qui nous a beaucoup gêné, c'est les productions verbales écrites. On s'est interrogé sur ce que ça voulait dire et on en avait à la fin conclu que peut-être la production verbale avait été faite à l'oral, collectivement, et que le d'écrire... Voilà.
Mais après, ça c'était l'identification du GDR voilà. Qui s'appelle production verbale écrite.
D'accord. Donc ça nous a un petit peu gêné, c'est pour ça qu'on est passé sur le texte de l'autre élève.
Comme quoi tout compte.
Voilà, tout compte, oui.
C'est une mise en page défaillante.
Donc on a mis en regard les deux textes, narratif, explicatif, et on a essayé de voir comment l'analyse des deux textes nous permettait ou pas de définir les compétences qui étaient maîtrisées par l'élève. Alors, un certain nombre de compétences qui nous ont semblé ou paru maîtrisées, le respect du genre, puisqu'en fonction des deux textes, on avait un discours relativement adapté au genre en question et différent des deux, donc sur la syntaxe, sur les modes énonciatifs, sur l'utilisation des temps, sur l'utilisation du vocabulaire et du lexique. Des compétences morphosyntaxiques, une bonne cohérence textuelle. Pour l'anecdote, un texte qui nous a semblé très compréhensible dans la mesure où on avait été relativement incapable de décrypter les images qui étaient trop petites et que la lecture du texte nous a permis de comprendre tout à fait ce que les images représentaient. Donc globalement, un élève qui a su s'exprimer parfaitement et décrire les supports qu'il avait. Une bonne maîtrise orthographique également, on y reviendra tout à l'heure. Et puis une utilisation de la ponctuation, donc majuscule et ponctuation, forte uniquement, donc les points, avec une segmentation adaptée à ce qu'on lui proposait, c'est-à-dire une phrase par image, donc 6 images, 6 phrases. Voilà pour ce qu'on a pu observer des compétences de l'élève. Alors maintenant sur les difficultés, ce qui nous a manqué, c'est de savoir le contexte. Connaître le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qui avait pu être travaillé au préalable, de quels outils les élèves pouvaient disposer. Est-ce que, par exemple, donc à propos de l'orthographe qui nous semblait relativement bien maîtrisée pour un grand nombre de mots difficiles au CE2, est-ce que la liste de mots était, par exemple, affichée au tableau ? Comment est-ce que les élèves avaient pu travailler le lexique et l'orthographe ? Voilà. Alors maintenant pour ce qui concerne alors quelques pistes qu'on a évoquées très rapidement parce qu'on a été pris par le temps sur des scénarios de formation, donc proposer un corpus beaucoup plus réduit, indiquer le contexte dans lequel les corpus ont été relevés, c'est-à-dire le travail qui avait été conduit au préalable, les consignes précises qui avaient été données aux élèves, quel état des textes, si on ne savait pas par exemple pour le texte narratif s'il s'agissait d'un premier une première écriture ou pas. Et puis la liste des aides qui étaient proposées, qui éclaire aussi grandement sur les compétences que les enfants sont capables de maîtriser. Voilà rapidement les tas de noms.
Et sur le quoi faire avec les textes, vous les faites analyser, vous les faites corriger, vous les faites réécrire?
Alors, ça c'est des choses qu'on s'est dites un petit peu après, mais une partie du groupe était déjà partie. On avait imaginé un scénario à partir d'un même texte qu'on aurait proposé sur 3 groupes différents. Le même texte proposé en l'état à des enseignants pour qu'ils essayent, la consigne qu'on a eue, d'inférer les compétences développées par l'élève. Un autre groupe qui aurait travaillé non pas avec le support écrit, mais avec le texte lu par l'enseignant, où on n'aurait donc pas mis les enseignants en situation de voir la façon dont c'était écrit, mais uniquement la façon dont c'était exprimé. Et puis un troisième groupe qui aurait travaillé sur un texte complètement toiletté, donc un support écrit, mais nettoyé, toiletté par nous. Et on aurait du coup essayé de missionner les enseignants donc, sur l'identification des compétences. Et la mise en commun nous aurait peut-être permis de voir à quel point l'apparence du texte, l'apparence formelle, le respect des normes nous empêche souvent de mesurer la qualité de production écrite au sens d'expression. Voilà, c'est un scénario possible.
Est-ce que des gens du même groupe veulent compléter ?
Peut-être par rapport à ce que disait la collègue tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'elle trouvait que les textes des plus petits étaient plutôt tirés vers l'oral, alors qu'il nous semblait que le texte de CE2, justement, le premier texte AB, relevait vraiment d'une syntaxe de l'écrit, avec il était une fois, il y a l'incursion de dialogue, enfin il manque que les guillemets, quoi, et le ton, la ponctuation. Mais il nous semblait que c'était des tournures spécifiques à l'écrit et pas à l'oral. Déjà en CE2.
Et juste là-dessus, après la proposition qui a été faite par le rapport à la formation, c'est qu'on a commencé par travailler sur le texte C, enfin, et après on est revenu au texte AB, et on s'est dit, si on donne ça à des enseignants, ils vont tous trouver que le texte C est bien meilleur, mais en ce qui concerne le texte de AB, le premier sur le narratif, il y a beaucoup plus de choses, une richesse par rapport au genre. Et donc on s'est dit quel dispositif pédagogique on peut proposer dans le cadre d'une formation pour qu'il laisse un peu de côté la norme pour s'intéresser au texte.
Bien, alors juste pour lier aussi le travail des divers groupes, vous avez bien remarqué que cet élève effectivement six vignettes, six phrases. Simplement sur la segmentation, je voudrais vous faire remarquer qu'il ne fait pas de la même manière dans le texte scientifique et dans le texte littéraire. C'est-à-dire dans le texte scientifique, il utilise des marques de délimitation des phrases qui ne sont pas doublées par des connecteurs. C'est-à-dire il dit au début la grenouille pond des œufs, point, l'œuf éclos, point, la petite bête grandit, point, le tétard grandit. Et à la fin, il y a le tétard devient une demi-grenouille, mais presque toujours on a une marque de ponctuation et pas un connecteur. Alors que presque toujours dans le texte narratif, on a marque de ponctuation et connecteur. Enfin, ce connecteur et signifiant que c'est pas fini, parce que la grande difficulté, c'est de faire des blocs. C'est à la fois de rassembler et de délimiter. Et ça, c'est un problème de syntaxe. Alors, je voudrais quand même souligner que chaque fois qu'on commence l'année dans beaucoup de classes par type et forme de phrase ou la phrase simple, Bernard Combette, je l'écoutais la semaine dernière, dire justement la phrase simple, c'est ce qu'il y a de moins simple. Parce qu'en réalité, la phrase, l'énoncé normal, c'est... mon père, il est venu l'autre jour. Et donc, revenir à une phrase simple, caractéristique de l'écrit, c'est un signe de compétence. Donc, la facilité n'est pas forcément où on croit. Et finalement, on le voit aussi quand on écrit. Une des difficultés, c'est de parfois, avec une grosse phrase, une longue phrase, d'en faire deux. Et ça, c'est vrai aussi au collège ou au lycée, où on voit les élèves s'embarquer avec une phrase qui fait une page entière, avec la difficulté à la délimiter. Alors là, il me semble que l'élève, dans les deux situations, l'élève C, on voit bien qu'il est... Enfin, il me semble qu'il y a plus de compétences dans la segmentation syntaxique de la phrase sur le texte scientifique que sur le texte narratif. Et du coup, dans le texte scientifique, le « et », il a une autre valeur. L'œuf est clos et il y a une petite bête qui... Il a une valeur presque consécutive. Parce que le « et » en français, il peut permettre de connecter, mais il peut permettre aussi d'indiquer la succession temporelle, mais aussi la causalité. Et on a l'impression que le « et », là, dans le texte scientifique, il a plus valeur de marquage de causalité. Oui ? Alors peut-être aussi, on peut se dire aussi que si on dit la difficulté de la tâche, plus la tâche est difficile, plus moins on peut focaliser son attention sur des questions de formulation, on pourrait se dire aussi que là, il y a quand même, en termes de tâche, c'est deux fois six images, mais c'est beaucoup plus facile sur le... Enfin, encore que... Moi, je me suis amusée à rédiger les deux textes. C'est quand même pas tout à fait commode, quand on n'a pas les connaissances scientifiques, de rendre compte du processus de transformation du tétard. Et c'est pas non plus très facile de rédiger un texte sur l'autre. Oui.
Et d'ailleurs, lui, y arrive en renommant à chaque fois l'œuf, le guétard, la demi-grenouille, etc. C'est un peu utile et ça dit bien les étapes qui sont difficiles à décrire.
Tout à fait. Et ça me paraît aussi, par rapport au référent évolutif ou à ce qu'on a vu ce matin dans des textes scientifiques où il y avait une espèce de ça très général, là, on voit bien que l'œuf, les étapes, elles sont dénommées par les objets de discours qui sont posés en tête de phrase. Donc, du coup, quand on regarde de près, on s'aperçoit que... Alors, c'est tout le problème de la compétence. La compétence, on ne peut pas directement l'observer. On va l'inférer à partir de performances. Et là, les deux textes... Alors, il n'y a aucun travail. Là, je redis, c'est vraiment pas... C'est pas la situation ordinaire où on va présenter un travail dans sa contextualisation didactique. Là, c'est vraiment des prises d'informations brutes dans des classes dont on ne sait pas ce qu'elles font par ailleurs. Mais il est clair que sur une des tâches... L'élève manifeste plus de compétences, par exemple, sur la délimitation des phrases que dans l'autre cas. Et donc, c'est aussi l'intérêt de montrer que ce n'est pas une tâche d'écriture unique qui permet d'inférer de quelles compétences dispose l'élève, puisque c'est fortement lié aux tâches. Voilà. Alors, très bonne idée de donner effectivement des supports différents pour faire mesurer aussi ce qu'on peut appeler l'agrégation des critères, c'est-à-dire que l'attention n'est pas focalisée forcément où on le croit. Moi, j'ai un autre dispositif aussi qui consiste à évaluer une copie sans l'avoir sous les yeux, mais en posant des questions à un informateur. Donc, en fait, celui qui pose des questions, il utilise des critères, l'informateur donne des indicateurs. Et ensuite, de faire formuler un jugement sur la copie sans que la personne l'ait encore vue. Voire une note. Et ensuite, on donne la copie et là, on mesure les critères cachés, qui sont les critères qui interviennent dans l'évaluation mais que la personne n'a pas nommé, ou bien les écarts entre le seuil d'exigence de l'informateur qui a répondu aux questions et celle de la personne qui a posé les questions. Donc ça, c'est des éléments pour amener, là, on est plus sur la question de l'évaluation et des critères et de la prise de conscience par les collègues que, effectivement, on n'évalue pas forcément la même chose dans un texte en fonction de l'option qu'on prend. Faut avancer. Bien, donc sur oral écrit, variation selon les genres, c'était le seul groupe. Et ensuite, donc, il devait y avoir deux groupes sur la réécriture, c'est ça? Allez, à vous.
Donc, on était un groupe de 6 et on s'est divisé en deux groupes. L'un, un groupe de 4 qui s'est occupé, dont je suis le rapporteur, qui s'est occupé de la copie D, CM2. Donc on s'est posé les mêmes questions que tous nos collègues, quel contexte, etc. Et on s'est interrogé sur la qualité de la transformation, et on n'était pas tout à fait d'accord sur amélioration. Donc on s'est un petit peu focalisé sur suppression, ajout, déplacement, remplacement de ces copies. Donc on ne va pas tout dire, on va retenir quelques éléments. Par exemple, on constate que dans la production de l'écrit 1, du récit, dans la version réécrite, l'élève introduit à la ligne numéro 2 avec sa famille. Donc je lis rapidement, texte 1, un petit garçon qui s'appelle Luis et qui se prépare pour aller au restaurant. Il ajoute pour aller au restaurant avec sa famille. Et on constate que, est-ce qu'il y a un lien entre cet ajout et le fait qu'il est supprimé, la réaction de la famille dans le texte 1 où il disait « tout le monde s'en va, bon ». En voiture, sa sœur est énervée, sa mère en colère, et pareil pour le père, toute sa famille contre lui. Donc, qui avait été perçu comme un effet de style, un petit peu, pour montrer qu'il s'était fâché avec tout le monde. Bon. Cependant, ceci disparaissant, on s'aperçoit que dans le texte 2 apparaît des éléments de dramatisation, c'est le terme qui a été employé de nos collègues, Par exemple, on voit que la dame qui tombe dans les pommes devient la vieille dame. Et effectivement, l'ajout de l'adverbe carrément. De même, le mot attraper qui est devenu chope. Donc, il y a eu un effet de dramatisation. On peut appeler ça effet de dramatisation. Voilà. Voilà pour le texte narratif. Concernant le texte scientifique, le compte rendu, bon, la première lecture, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de mots type puis et puis après. Et on constate dans la version 2, non seulement ces mots ont disparu, mais ont été remplacés par des adverbes qui nous semblent plus porteurs de sens. Dans le texte 2, réécrit, donc, n'est conservé qu'un seul puits, mais par contre apparaissent le mot il a déjà ses pattes arrière et puis maintenant. Donc il y a eu une évolution dans l'emploi des connecteurs temporels. Deuxième chose que nous remarquons dans entre la version 1 et la version 2, c'est que dans la version 1, le petit tétard apparaît à plusieurs reprises, le tétard, 4 fois, 4 ou 5 fois, alors que dans la version 2, puis il sort un petit tétard qu'on a traduit par une tournure impersonnelle. Hein. Il en sort un petit tétard et à partir de là, l'enfant utilise il fait des phrases plus courtes et il nous semble-t-il c'est plus fluide. Voilà. Donc voilà ce qu'on a constaté chez cet élève. Donc je passe la parole à mon collègue qui a travaillé sur notre copie.
Alors nous, on a travaillé à partir des productions compte-rendu scientifique de l'élève E également. On a travaillé par étapes. On a commencé par analyser ensemble les erreurs et les réussites dans le texte page 13 de l'alias, c'est-à-dire le premier compte-rendu scientifique, et ensuite les améliorations dans le second jet. Et sans avoir compris, en fait, à ce stade du travail, que c'était fait à partir des images séquentielles qui sont données à la deuxième page de votre alias, on l'avait pas. En fait, on l'a deviné. Nous, on n'avait pas vu ces images. Mais on s'en est rendu compte parce que le texte se présente véritablement comme un film à partir. Bon, et donc, vous avez pu percevoir que c'était des images séquentielles qui étaient à l'origine. Dans les réussites, on trouve d'emblée dans ce premier jet, au niveau lexical, un certain nombre de termes scientifiques appropriés, comme éclore, s'accoupler, paire. Et puis, en revanche, la grenouille féminine, par exemple. Donc des termes qui sont impropres. La première phrase, la grenouille féminine s'accouple avec une grenouille mâle, puis plusieurs jours après, il y a la ponte, ce qui donne des œufs avec un embryon, puis l'œuf éclos, est sensiblement trop longue et dépourvue de ponctuation démarcative. On a noté aussi un certain nombre de connecteurs temporels, mais pas systématiques. Et alors, au regard de ces remarques, le deuxième jet est très intéressant parce que ça, je trouve que c'est très frappant et très très intéressant comme support en formation, parce que d'abord, l'impression première, c'est qu'il y a très peu d'amélioration et très peu de changements. Et à cet égard, pour apprendre à lire des textes d'élèves un peu en profondeur, au-delà d'aspects superficiels, c'est vraiment deux supports intéressants par l'impression de ressemblance qu'ils donnent d'abord. Et en fait, on s'est aperçu, en prenant un petit peu de temps, que il y a une amélioration très nette dans le deuxième jet de la segmentation. Si on relit la première phrase, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant à la ligne 4 dans les deux jets. La grenouille femelle s'accouple avec une grenouille mâle, puis plusieurs jours après, il y a la ponte qui donne des œufs avec un tétard à l'intérieur. Point. Et on a les mêmes mots après ce point que dans le premier jet, sauf que, puis l'œuf éclos, il en sort le fameux tétard. Ça, c'est très intéressant. Le point se déplace avant, puis l'œuf éclos. Alors que les mots sont le même, ce qui change, c'est la place du point. Et en fait, à partir de cette première remarque, on s'est rendu compte que l'élève, et donc si on comprend bien sans aucune intervention de l'enseignant entre les deux, va vers une association, une phrase par étape. Et donc une clarté du propos qu'on constate en fait à d'autres endroits. Une autre amélioration très forte et qui n'est pas forcément évidente d'emblée, c'est la qualité de la progression thématique qui est éclatée dans le premier jet. D'une phrase à l'autre, on parle de choses vraiment un peu éclatées. La grenouille féminine, il sort de l'œuf. Alors là, le tour impersonnel rend difficile l'identification du thème. Puis le tétard, les deux pattes avant du tétard, enfin la grenouille. Ça, c'est le premier jet. Alors que dans le deuxième jet, on a une progression linéaire où à chaque phrase et donc chaque étape, il y a reprise d'un terme désignant l'animal en train de se métamorphoser. Ce qui nous a fait penser à ce que vous disiez ce matin par rapport à la digestion. Donc les problèmes de désignation d'un objet en train de changer. La grenouille femelle, l'œuf, le tétard et enfin la grenouille, la nouvelle grenouille. Donc là, il y a une amélioration de la progression thématique qui devient linéaire, si on veut. Voilà pour les améliorations. Alors ensuite, on s'est demandé quel dispositif didactique permettrait de nouvelles améliorations pour aller vers un texte plus scientifique. Et on a pensé qu'une consigne qui pourrait être donnée à cet élève dans le cadre d'un troisième jet, ou en fait un groupe d'élèves, serait d'abord une consigne où on changerait de support. On donnerait un support blanc sans ligne, parce que le support ici qui comportait des lignes induit un texte d'un certain type, qui est peut-être une forme discursive inadaptée au regard du genre qui était attendu. Donc sur une affiche, on pourrait obtenir un schéma avec une association soit de phrases à une vignette, soit de groupes nominaux pour aller vers la nominalisation qui a déjà été évoquée dans le texte scientifique. Et pour finir, notre dernière réflexion, c'était quel dispositif en formation. Alors deux objectifs, c'était apprendre à lire des textes d'élèves au-delà de la correction des copies traditionnelles et normatives. Deuxième objectif, prendre conscience d'éléments facilitateurs de la réécriture au-delà des interventions de l'enseignant. Avec deux modalités de formation, dans un premier temps, les premiers et deuxièmes jets, en raison de leur proximité qu'on a relevée, en fait, ici, on s'était dit que peut-être ce serait intéressant de les donner aux stagiaires sous forme dactylographiée, sans les ratures du premier jet, avec la question suivante, quel est le premier jet, quel est le deuxième, justifier votre réponse par des indices variés. En fait, on rendait plus difficile l'identification des premiers et deuxièmes jets, et du coup, on orientait vraiment le regard vers des marques qui ne sont pas des marques de surface. En dactylographiant, et donc on dactylographiait sans fournir les ratures qu'on a dans le premier jet notamment. Et ensuite on validerait, je pense, ce qui devrait être trouvé là en fournissant les textes manuscrits originaux, et ensuite on reviendrait à quelles consignes donneriez-vous pour écrire un troisième jet plus scientifique. Mais là on a eu une discussion sur la nature du genre compte rendu scientifique. Là manifestement on voyait bien qu'on n'est pas dans un compte-rendu d'expérience ni de visite, donc il y a un problème dans la dénomination de cette production lors du deuxième jet, dans le support qui est donné.
Bien, merci. Je propose d'écouter l'autre groupe, enfin, sauf si vous avez des choses à ajouter, l'autre groupe qui a travaillé sur...
Non, ici, il y en avait encore.
C'est ça, c'est ça. Non, comme ça, ça ira plus vite. Enfin, on est sûr qu'il passe.
Non, on n'a rien à ajouter.
Il y avait bien deux groupes qui travaillaient sur cette question.
Non, moi je.
Oui, il y avait deux groupes.
Là, vous avez rendu compte du travail des deux groupes? Non, d'un groupe qui s'est partagé en deux. Mais il y a encore un autre groupe qui a travaillé sur ça, non?
Oui. Non, mais il y a le deuxième groupe. Enfin, il en reste à peine la moitié du deuxième groupe.
Ah, il y a l'évaporation.
Oui. Mais on a rien à ajouter à ce qui a été dit. Hein. On avait moins de choses à dire. Sur peut-être le processus de formation... Tu veux ajouter? Non, j'essaie de me souvenir parce qu'on n'a pas pris de notes. on s'est interrogé sur la pertinence, enfin certains dans le groupe se sont interrogés sur la pertinence d'utiliser ces documents, dans la mesure où on avait constaté quand même dans l'ensemble peu de oui. Ça avait peu bougé d'un texte à l'autre. On s'est demandé s'il était peut-être pas plus intéressant de donner deux jets successifs où ça bouge beaucoup et d'interroger les enseignants, savoir qu'est-ce qui s'était passé entre les deux. Voilà, il nous semblait que c'était peut-être plus intéressant. Alors, c'était aussi peut-être dans un premier temps intéressant de montrer ce premier et ce deuxième jet, en montrant que ben, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Il ne suffit pas de demander aux enfants de réécrire pour que ça réécrive. Donc, dans un premier temps, leur faire constater ceci, en imaginant que c'est une pratique régulière des enseignants. Bon, ben, ça ne marche pas, ça ne donne rien. Et puis ensuite, passer sur cette deuxième modalité, c'est-à-dire que ben, là, ça a bougé. Et pourquoi ça a bougé ?
Mis en place, sachant que pour le deuxième corpus, il y aurait un dispositif mis en place pour qu'il y ait eu vraiment réécriture des textes. C'était le consensus trouvé au niveau du groupe.
Parce qu'il y avait des controverses ?
Oui, sur les corpus, sur la pertinence ou non d'utiliser celui-là et puis d'en proposer un autre.
D'accord. Alors, quelques mots, parce que là, on a l'heure approche. Hein. D'abord, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, qui dit réécriture ne dit pas forcément progrès. Bon, ça, je me rappelle d'un article de Caroline Masseron où elle avait montré que la réécriture entraînait un texte qui, du point de vue de l'imaginaire, était bien moins bon que la première version, même s'il était plus conforme aux exigences. Donc, je trouve très astucieuse à l'idée de donner deux versions du texte et de demander laquelle est la première. Bon, parce qu'effectivement... il n'y a pas forcément non plus une hiérarchie entre première version et deuxième version. Alors, deuxièmement, je crois quand même que ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est la rature dans l'écrit 1. Parce que, justement, la rature dans l'écrit 1 est souvent un signe de compétence. Hein. On a notre collègue finlandais qui a regardé ça de près. C'est vrai que, bon, c'est intéressant de regarder ce qu'ils ont ajouté, ce qu'ils ont déplacé, s'ils ont su utiliser les ressources de l'écrit. Et visiblement, l'élève D, non, parce qu'il a juste un petit truc à rajouter, mais il barre tout bien à la règle. Là, on a des traces sûrement d'habitude de travail dans les classes. Bon, qui ne sont pas forcément productives du point de vue de la réécriture. Sur le texte scientifique, je voulais souligner que quand on regarde l'ensemble du corpus, il y a vraiment un saut entre les corpus école et les textes école et les textes collège, avec vraiment, dès la sixième, hein, mais c'était des sixièmes fin d'année, un vocabulaire scientifique très marqué dans les textes collège. Bon, alors... Par ailleurs, dans le petit corpus qu'on a, hein, qui correspond donc à 6 élèves par niveau de classe, hein, donc c'est pas immense, il n'y a qu'un élève en quatrième qui, pour le texte scientifique, organise véritablement l'écrit avec une mise en page 1, 2, 3, 4, une mise en espace avec des retours à la ligne, un titrage clair. Les autres, enfin, au premier regard, ne différencient pas vraiment l'écrit scientifique de l'autre écrit. Alors, sur la progression thématique, autant je suis d'accord sur progression linéaire, enfin, je ne sais pas si on peut parler de progression éclatée, parce que la progression éclatée renvoie à un terme hyperonymique dont on déclinerait les sous-parties, c'est-à-dire... Or là, il y a plutôt une discontinuité thématique, enfin, il me semble que c'était... plutôt ça que vous vouliez pointer. Mais effectivement, c'est un angle d'entrée. Alors ça aussi, ça peut être dans un travail... il y a un groupe qui est rentré par les opérations du brouillon, ajout, déplacement, etc., qui sont celles donc de l'item reprise dans le travail de Claudine Fabre sur les brouillons d'enfants. C'est une entrée possible. Une autre entrée peut être celle que vous avez prise aussi sur comment est désigné le tétard, par exemple, et donc sur les questions de progression. Bon, sur le mot G, moi j'avoue que je préfère parler de version que de G, mais ça c'est dans le vocabulaire. Et effectivement, rien ne s'est passé didactiquement entre la version 1 et la version 2. Ça, on l'avait constaté aussi en 6e, quand on avait demandé aux élèves de 6e de réécrire leur texte et qu'il ne se passait rien. Et alors, d'un point de vue global sur le corpus, ce qui apparaît, c'est que plus on est compétent, alors, puisque on a un échantillon d'élèves présenté par l'enseignant comme faible, moyen et bon, avec en français. Donc, c'est quand même pas très fin comme classification. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des élèves qui, dès le CE2, ajoutent des choses, modifient des choses, et dès leur première version, raturent, et font des transformations d'une version à l'autre, plus finalement que certains élèves de quatrième faibles. Donc ça semblerait plus un effet de compétences liées à des compétences d'écriture générale que liées strictement à l'âge. Et on pourrait aller plus loin en disant aussi que ça paraît davantage lié à une dimension didactique, c'est-à-dire quelle représentation on donne de l'écrit, de la manière de le travailler, que à un niveau d'âge. Hein. Alors effectivement, on peut penser qu'il y a des élèves, même à des niveaux avancés du collège, qui gardent une vision de l'écrit extrêmement statique et ne voient pas toutes les ressources de l'écrit, alors que des élèves dès le CP ou le CE1 peuvent avoir compris qu'on peut modifier. Alors là aussi, avec toutes les dérives sur le fait que, comme la maîtresse, qu'il y ait beaucoup de ratures, on en met. Hein. Enfin, ça, c'est aussi des effets indirects qu'on produit. Alors, du coup, effectivement, là, sur la réécriture, ce corpus n'est pas du tout parlant. Je dois dire aussi qu'on a été assez étonné de voir qu'il y avait si peu de transformations. Et puis même en regardant de près orthographiquement, par exemple Daniel Cogis a travaillé là-dessus, il y a même des dégradations entre la version 1 et la version 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de faire réécrire, s'il n'y a pas des outils de référence, ou s'il n'y a pas un travail d'apprentissage suffisamment ciblé, c'est pas parce qu'on dit à l'élève de se relire qu'il va forcément, même s'il détecte une erreur, la corriger correctement. Et donc là, il y a tout le travail lié au niveau de compétences. Alors, pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit, sur montrer un état 1 et un état 2, moi, par exemple, j'avais utilisé deux états successifs d'un travail dans une classe de CM1 sur récit des origines. Hein. Bon, donc c'était à Rodez, c'est un quartier qui s'appelle Les Quatre Saisons. Et les élèves sont allés aux archives et n'ont pas trouvé pourquoi ça s'appelle Les Quatre Saisons. Bon, du coup, on leur a demandé d'inventer un récit éthiologique où ils vont expliquer le nom de leur quartier. Et entre les deux versions, l'enseignant a fait un travail sur l'insertion de la description, alors qui s'est fondé d'une part sur un travail de texte puzzle où dans un récit, elle a enlevé les descriptions et il fallait trouver à quel endroit elles allaient. Hein, et d'autre part, un travail de lecture mutuelle où les élèves avaient à pointer à quels endroits il pouvait y avoir une description. Et il y a une réécriture. Alors là, ça bouge beaucoup entre la version 1 et la version 2. Ceci dit, ça bouge toujours de la même manière entre la version 1 et la version 2, parce que c'est un travail très technique. Et donc là, ça pose la question. Alors à la fois, ça montre qu'on peut avoir des consignes de réécriture qui sont communes à la classe. Mais en même temps, ça montre aussi les limites. Donc je trouve que dans un atelier sur la réécriture, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement d'avoir des cas où ça bouge pas, ou pas beaucoup, et je crois que le groupe tout à l'heure a montré que même si ça bougeait pas beaucoup, parfois il y a juste un petit mot ou juste un petit point qui s'est déplacé, et c'est intéressant de le faire observer, parce que ça peut-être en première approche, si on sait pas le voir, on va passer à côté. Et d'autre part, de montrer comment ça bouge, quand ça bouge, à la fois comment ça peut bouger techniquement, qu'est-ce qu'on a gagné, mais aussi, là, les élèves, du coup, ils insèrent des descriptions partout, même là où il n'en faut pas forcément. Enfin, donc, de voir aussi l'intérêt et les limites de diverses modalités de réécriture. Et peut-être que ça pourrait être intéressant, ça suppose de faire un essai, hein, sur les mêmes textes, sur des mêmes textes, de demander à plusieurs classes de faire réécrire avec des entrées différentes et d'utiliser en formation ces réécritures pour montrer aussi que toute réécriture est un choix. Ça, je crois aussi que c'est une difficulté par rapport à l'écriture, c'est-à-dire que on accepte qu'en maths, on ait une programmation et une progression, mais en écriture, on voudrait travailler tout à la fois. Et si on veut travailler tout à la fois, on ne travaille rien. Enfin, donc l'idée aussi de montrer que chaque consigne de réécriture a ses intérêts et ses limites, ça peut être aussi un moyen de montrer que justement la difficulté c'est de faire un choix et que ben, le choix qu'on fait forcément il va amener des gains mais il va aussi amener des pertes ou des deuils parce que c'est un choix qu'on fait hein. Et de la même manière ce que vous avez dit sur les textes d'enfants on peut le faire aussi sur des brouillons d'écrivains hein. Pour Flaubert on a 8 versions successives hein. Quelle est, voilà, dans quel ordre elles ont été, quelle est la campagne d'écriture et comment et qu'est-ce que ça nous dit de choix et c'est pas forcément la dernière version qui est perçue comme étant la meilleure version. Alors là il y a des choses assez amusantes, je regarde a été réédité le traité de Albala, je crois que ça date du début du siècle hein, qui montre les versions successives de Brouillon, alors notamment de Flaubert, c'est ça que j'ai regardé de près, qui l'ordonne chronologiquement, qu'il commente comme on le commentait au début du siècle hein, pour montrer que vraiment, la dernière version, c'est la plus belle, la plus française et la plus... Mais là, je crois qu'aussi, on a un matériau hein, pour travailler justement sur ce qu'il a retiré. Alors, notamment, il y a l'épilogue de Madame Bovary. Et il y avait des vers qui se promenaient dans des versions jusqu'à la dernière. Et là, il a supprimé, hein, puisqu'en fait, le prêtre donne l'extrême onction. Et on détaille alors toutes les parties du corps de Madame Bovary qui ont connu la luxure. Et il y a même alors donc des mentions très très réalistes des vers qui vont dévorer la chair. Et il enlève à la dernière version alors que ça subsiste dans toutes les versions antérieures. Donc là, je crois qu'aussi ça peut être intéressant de faire choisir la version qu'on préfère parmi diverses versions, voire de grossir le trait dans le sens d'une des versions successives de Brouillon d'écrivain. Alors Flaubert, Balzac, Zola, là on en a beaucoup, mais notamment, hein, pour rester dans le très classique. Mais...
Juste une remarque sur le texte AB, le premier, qui est donc quelqu'un tout à l'heure soulignait les qualités, en particulier par la mise en dialogue dès le début. Moi je suis un petit peu. Enfin, ce genre de situation me pose un problème d'interprétation ou de repérage des compétences de l'enfant. Parce que, manifestement, le texte est effectivement très vivant et l'enfant visualise parfaitement quelque chose dans quoi il nous fait entrer. Le petit garçon devant la glace, c'est bon, je suis prêt, nous prenons la voiture, nous sommes au restaurant, le cuisinier dit, que désirez-vous? La mère dit, qu'est-ce que tu veux prendre, Mathieu? Je vais prendre pour l'entrée des betteraves, etc. D'une part, en termes d'effet, je trouve que c'est vraiment très, très réussi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie mise en scène. Et d'autre part, je ne sais pas la part de culture télévisuelle qu'il y a là derrière. Alors, deux réponses à ça. D'une part, on peut dire on s'en fout, c'est-à-dire que le résultat est là, et il y a une vraie compétence qui fonctionne. Et en même temps, on peut dire aussi que... qu'il y a aussi peut-être un manque de distance réflexive par rapport à l'écrit qui fait que le gamin colle complètement à un cinéma qui se fait. Je ne sais pas si je suis clair, là, l'heure tourne. Et donc Mais c'est une vraie question que je me pose. Derrière cette apparente réussite du texte, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une réussite qui est dictée juste par le fait qu'il est scotché devant sa télé et qu'il s'est fait un cinéma qui fonctionne très très bien? Ou bien est-ce qu'on a justement quelqu'un qui n'est pas capable de prendre... véritablement un minimum de distance par rapport à ce qu'il est en train de raconter. Pardon ?
On écrit avec ce qu'on a aussi dans sa main.
Bien sûr, c'est pour ça que c'est une question.
Parce qu'en même temps, il n'est pas ailleurs, parce que quand il dit « mais il ne savait pas que sa grenouille sautait de sa poche ».
Ça, c'est fort, oui, hein? Tout à fait.
D'ailleurs, la grenouille, suivant les versions, elle est amenée délibérément par l'enfant ou elle se cache. Hein. Ça varie. Oui. On va peut-être arrêter. Bon, alors, il était bien évident que dans le temps que vous aviez... Alors bon, je pense que... Là, l'alias de documents était quand même énorme. Bon, il n'était pas prévu que vous les utilisiez tous, hein, parce que j'avais dit certains, et bon, et vous avez organisé vos choix par rapport à ça. Par rapport au scénario de formation, hein, effectivement, le temps n'était pas, vous n'aviez pas le temps non plus de prévoir ce que vous alliez faire. dans le détail, hein, évidemment, mais la question se pose aussi de à quel moment on arrive avec des textes d'enfants. Et par exemple, est-ce que c'est important de mettre les gens en position, les collègues en position de d'écrire sur la même consigne eux-mêmes pour qu'ils voient les problèmes qui se posent avant de regarder les, des textes d'élèves? Est-ce que c'est important face à ces textes d'élèves de les mettre en position d'analyser ou d'intervenir? Et là, je voudrais dire que par rapport à la formation initiale, en tout cas préparation PE, ou pour la préparation du CRPE, donc la dimension analyse de texte d'élèves est importante. Quand on passe en deuxième année, la question est celle de l'analyse, mais surtout de l'intervention. Et donc moi, je ne sais pas bien le faire en formation. Mais je me dis qu'aussi à certains moments, simuler qu'est-ce qu'on va dire à l'élève ou formuler la consigne qu'on va donner de réécriture et donc avoir une dimension plus pragmatique que d'analyse, c'est quelque chose qu'en formation, on ne sait pas très bien faire. C'est-à-dire autant moi ce genre de dispositif, on le travaille bien quand on est dans position, effectivement, de préparer une séance pour aller là. Nous, on a la chance de pouvoir avoir des modules avec des collègues au maître formateur, avec où ils ont démarré le travail, donc c'est contextualisé et où on prend en même temps des questions. Là, on a travaillé sur des questions proches hein, de morphologie ou d'accord. Bon, voilà. Là, on le fait en vraie grandeur. Autant quand on est... Alors, il y a la posture d'analyse qui était celle que signalait le collègue tout à l'heure, c'est-à-dire on va aller regarder effectivement hein, ce bouger-là. Mais en même temps, ça, c'est une étape, c'est un élément. Mais ce n'est pas suffisant en termes de quelle intervention d'enseignement on fait sur ces textes. Et donc, ça, c'est une vraie question, me semble-t-il, en formation professionnelle initiale pour des gens qui n'ont pas la pratique d'un retour. Vous ne trouvez pas ?
Non, si, non, mais en même temps, je me disais que je le fais. De demander justement le prolongement, qu'est-ce qu'on fait avec ces copies-là? Et je disais au groupe, il n'y a plus personne, donc je peux le redire, je disais que je prenais des copies qui sont justement assez contrastées, dont une qui est extrêmement bien pour la structure, mais détestable pour un prof, parce qu'elle est longue, pleine de fautes de tous ordres, pleine d'erreurs de tous ordres, mais très intéressante pour la structure. Et donc ça permet aussi de voir que, d'apprendre à lire des textes d'enfants, si je peux dire, enfin, qui est toujours une difficulté, c'est-à-dire un texte qui nous ressort par les yeux d'emblée, rien que par l'écriture, mais en réalité qui est rudement intéressant. Donc ça permet de déplacer un petit peu les... au moins de leur donner mauvaise conscience, mais tout en... je sais très bien qu'on peut pas faire ça avec 25 copies. Hein. Donc on compare quelques copies et puis on demande, je leur demande qu'est-ce qu'on fait avec ces copies-là.
Je crois que j'ai une autre réponse aussi pour Claudine. Il me semble que depuis le début, ça a été même assez unanime dans le tour de table de lundi matin, ce qui est considéré par pratiquement dans tout le monde ici comme un vrai obstacle dans la formation, une vraie difficulté, c'est les représentations que les enseignants se font de l'écriture, les blocages qu'ils ont vis-à-vis de l'écriture, etc. Et donc du coup, la question des interventions ou des remédiations dans le cadre de la formation peut paraître comme un peu secondaire par rapport à ce premier levier qui est vraiment à faire sauter, qui est qu'est-ce qu'on trouve dans un texte d'enfant. Et donc ça rejoint ce que dit Dominique, finalement, arriver à reconnaître qu'il y a des qualités dans un texte qui paraît immonde, ou etc., c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et deuxième remarque, si on se situe dans la perspective qui a été celle, alors désolé pour ceux qui arrivent sur la formation, qui a été celle qu'on a explorée depuis le début, et qui est plus du côté, justement, de l'accumulation des écrits, de l'épaississement, de la diversification, parce que les réponses apportées par François hier, par exemple, sur les copies de seconde sont différentes de celles de Dominique Bucheton, mais c'est quand même un petit peu la même idée, c'est que, au lieu de reprendre le texte, on en propose un autre, on propose une consigne voisine, ou on repart sur quelque chose d'à côté. Du coup, la question de l'intervention, elle n'est peut-être pas non plus primordiale. C'est-à-dire peut-être que de temps en temps, c'est pas tellement qu'est-ce que je peux dire à l'élève AB une fois que j'ai eu cette production d'écrit, qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce que je peux lui donner, mais plutôt comment on peut rebondir, renaître, quelle autre consigne d'écriture on va proposer, qui ne va pas nécessairement chercher à répondre de manière frontale aux difficultés repérées dans telle ou telle copie. On repère que oui, effectivement, il y a un problème, par exemple, de segmentation, et il met la ponctuation n'importe comment, ou je sais pas quoi. Enfin, n'importe comment, bien entendu, c'est jamais n'importe comment, j'ai dit une bêtise, mais bon, on se dit, il faudrait travailler là-dessus, mais peut-être que c'est pas en travaillant là-dessus directement qu'on va répondre à la difficulté qu'on diagnostique cette fois-ci sur ce texte-ci. Je sais pas si tu es d'accord.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai travaillé avec François Le Goff dans sa recherche formation. Alors, c'est intéressant parce qu'on a les mêmes textes et donc tous les collègues. Et puis, on voit jamais la même chose là-dedans. Et dans les consignes de réécriture, François et moi, on n'a jamais les mêmes consignes non plus. Mais voilà, je crois aussi que ça montre que, bah, comme tout projet d'enseignement, on fait des choix. Avec ce qu'on est et moi ce que je trouve assez remarquable chez François, c'est la manière dont il propose une autre consigne qui réactive, qui est proche, enfin je sais pas ce qu'il a présenté comme exemple l'autre jour, mais le travail qu'il a fait, moi j'ai repris le travail qu'il a fait avec des élèves de seconde sur les jouets. Il a parlé de ça. Et moi je l'ai travaillé en formation en PE2, j'ai repris la consigne. Et effectivement, ça fait bouger énormément de choses. Enfin, je trouve aussi que c'est une consigne apparemment enfin, simple. Mais en même temps, bon, effectivement, avec des PE2, quand on a un atelier de 3 heures, on ne fait pas ce qu'il a fait, lui, avec des lycéens sur un mois, quoi. Mais moi, enfin, en tout cas, le groupe que j'avais eu l'an dernier, du coup, ça a déclenché aussi d'autres écritures poétiques, y compris sur le métier d'enseignant. Qui était tout à fait intéressante. Donc, du coup, ça a déplacé des choses avec une consigne apparemment simple. Et je l'ai refait cette année. Alors, je n'ai pas dû le faire pareil. Et je n'ai pas le même groupe. Et c'est allé moins loin. Voilà. Mais je crois quand même que cette question des ateliers d'écriture et d'être suffisamment en confiance avec un groupe pour proposer un atelier d'écriture qui permette de bouger des choses sur son propre rapport à l'écriture avec toutes les résistances qu'il peut y avoir... à ne pas entrer dans ce travail, hein, parce qu'il n'est pas rare qu'il y ait une ou deux personnes du groupe qui veuillent pas le faire. Je crois que c'est quelque chose de décisif. Et finalement aussi, on revoit, enfin, quand on revoit des PE2 des années après, ils vous disent que c'est la séance où ils ont, bon, vous avez fait une petite activité d'écriture où vous n'avez pas mesuré que vous alliez bouger des choses, qui les a marqués. Donc je crois qu'aussi en formation, on a peu de temps. Donc du coup, il faut aussi des choses qui soient jugées utiles, mais aussi des choses qui dérangent dans mon propre rapport personnel à l'objet enseigné. Alors, par rapport à l'écriture, la marge est large. Hein. On peut avoir diverses consignes d'écriture, mais je crois que c'est important. Hein. Même si parfois, ça fait un peu peur, quoi.